Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Radio Maritime, l'émission du quartier maritime situé à Molenbeek. Bonjour Noé.
Bonjour Thibaut, comment vas-tu ?
Mais ça va et toi ?
Bah ouais, ça va bien, on est bien accompagnés aujourd'hui, on a une belle tablée, ça fait plaisir. Après deux semaines,
la semaine passée parce qu'on était en quarantaine.
Voilà. Ah oui, mais...
Ce qui rassure tous nos invités aujourd'hui.
Oui, mais bon, c'est à la mode, on devait faire comme tout le monde, Thibaut, tu sais.
Alors aujourd'hui, dans Radio Maritime, eh bien, on innove, on a des chroniqueuses, parce qu'on va tenter de vous faire faire une chronique régulièrement sur la santé mentale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, mais c'était fin de l'année passée, nous avions fait une émission spéciale sur la santé mentale à Laeken. Eh bien... Quelques personnes du groupe qui a préparé cette émission voulaient revenir régulièrement pour nous parler santé mentale. Bonjour Cathy, bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Super bien.
Oui, tout va bien.
Vous êtes un peu stressé ?
Un petit peu, oui.
À mort.
C'est votre première chronique ?
Et toute première, oui.
Alors, première radio.
Alors, vous êtes parrainé par Monsieur Patrick ?
C'est ça, c'est exactement le mot que j'avais.
Il est là derrière nous, il nous surveille.
D'un œil bienveillant quand même.
Notre chroniqueur historique passe la main, c'est officiel.
Notre défunt chroniqueur même.
Ouais,
feu Monsieur Patrick.
Il faut pouvoir partir, c'est ça tout l'enjeu.
Mais comment allez-vous, vous, Monsieur Patrick ?
Monsieur Patrick, par contre, pour parler, il va falloir prendre un micro tout de même. Oui, vous ne pouvez pas être... Non, regardez, prenez mon micro.
Celui-là, il y a celui-là.
Non, mais je vais me rapprocher.
Ça va ?
Si j'attrape le Covid, ce sera de votre faute.
Non, tout ça c'est fini.
Et il y aura des témoins en plus.
Tout ça c'est fini. Vous allez bien, Monsieur Patrick ?
Je vais bien. Je vais bien.
Oui.
Je vais très bien.
Et le projet 04 dont nous avons vanté les mérites il y a deux semaines, comment se porte-t-il ?
Alors, six semaines.
Oui.
Six semaines, grosso modo, c'est tombé. 6 à 7 semaines d'existence, 6 à 7 familles différentes.
Donc une famille à chaque fois,
oui.
Une famille nouvelle à chaque fois.
C'est ça, peut-être même deux familles en même temps parfois.
Oui.
Donc c'est modeste, mais c'est déjà ça de prix. Parce que en plus de ça, on va continuer à faire de la pub et Céline, qui est la partenaire de l'école de cirque, est allée hier au Petit Château.
Oui.
Et il y a des familles là-bas qui seraient sensible à ce projet, même si c'est temporairement, puisque ce n'est qu'un passage au Petit Château. Mais donc voilà, ça grandit tranquillement, ça trouve son public, les accueillantes trouvent leur rythme aussi, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, comment elles se partagent les tâches. Ça, c'était dur à dire, ça, de grand matin.
Oui, mais c'est très bien.
Mais voilà, c'est passé. Et donc voilà, vive moi.
Ben oui, vive-vous.
Modestement.
Et l'école de devoir du quartier, comment se porte-t-elle ? Parce que vous avez plusieurs casquettes. Hein.
Ah oui, oui d'ailleurs, quand on parlera de Thomas, on y reviendra.
Eh oui, parce qu'il y a Thomas qui est là aujourd'hui.
Ça, oui. Donc l'école des devoirs, ça va. Les enfants sont là. Il y en a entre 25 et 25 par jour. Donc c'est une bonne moyenne. Il y en a 50 inscrits quand même. Hein, donc c'est 2 x 2. Hein. Lundi, jeudi, mardi, vendredi. Donc une cinquantaine d'inscrits, ça tourne. Les ados aussi. Voilà, la vie est belle, quoi.
Bravo, Monsieur Patrick.
Oui, allez. Si vous voulez.
Bonjour, Chloé.
Bonjour.
Bah, ça va, Patrick ? C'est-à-dire que quand vous êtes là, on vous entend, vous.
Je m'en vais.
On la refait. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors Chloé, toi, c'est la radio qui t'anime.
Ouais, exactement.
C'est vrai.
La web radio, plus spécifiquement.
Ouais. Alors c'est Noé qui tenait absolument à t'inviter. Moi, j'étais pas pour. Mais
bah, merci Noé. Du coup.
Non, c'est pas vrai. On était tous les deux très 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 emballés à l'idée de vous inviter et à l'idée que tu nous présentes un petit peu le projet que vous allez lancer mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Donc une web radio, j'ai un peu spoilé déjà la nouvelle, mais ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, présenter ceux qui sont ici aujourd'hui, l'envers du projet et peut-être ouais, un peu le présenter ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer ?
Alors c'est Radio Vacarme, voilà le nom. Et c'est une web radio queer et féministe en fait, donc qui a pour but de promouvoir les femmes et les personnes appartenant à la communauté queer. Donc, c'est des résidents et résidentes, femmes ou queer, et ou queer, qui vont pouvoir animer des émissions en ligne. Donc, voilà, pour l'instant, on part sur une diffusion tous les jours à partir de 18h30. Donc, on commence la semaine prochaine. Et voilà, on espère créer une communauté. Il va y avoir de la musique, des chroniques, des cartes blanches, un petit peu de tout sur des sujets d'actualité, assez militants aussi, assez engagés. Et voilà, on commence bientôt, on a hâte.
C'est quoi les étapes pour lancer une web radio ?
Oula, il y en a pas mal.
Déjà, il faut l'idée.
Il faut l'idée, il faut l'écrire, il faut trouver des personnes qui sont motivées de s'engager parce que c'est un gros, gros travail. On a monté une ASBL.
Avec les dépôts de
la paperasse,
de
la paperasse, ouais.
Ça va être l'enfer, hein. L'enfer.
Exactement. C'était les premières étapes. On a commencé en septembre, en fait. Donc, ça a quand même été vite, mais beaucoup d'étapes. Donc, oui, créer une ASBL, définir son projet, commencer à créer des formulaires pour aller chercher des personnes qui voudraient animer une émission au sein de la radio, créer une programmation horaire, créer une page Instagram, toute la communication et tout ça. Et puis voilà quoi. Voilà, je l'ai résumé, mais.
Ouais. Et vous êtes combien à mener un peu là ? Parce que bon, web radio, c'est quelque part, c'est communautaire. J'imagine qu'il y a plein de personnes, comme tu disais, qui vont venir faire leurs émissions. Mais vous êtes combien à porter le projet ?
On est quatre. Mais ouais, effectivement, comme tu le dis, c'est participatif. On veut vraiment que ce soit participatif. Donc pour l'instant, on est quatre à avoir monté le projet. Mais par la suite, on aimerait vraiment que cette communauté de résidents-résidentes puisse s'impliquer et nous aider dans le développement de la radio. On aimerait bien faire aussi des workshops pour apprendre, par exemple, à mixer, à animer une émission, à créer un podcast. Voilà, donc on aimerait vraiment que ce soit le plus participatif possible, en fait.
Alors moi, je vous suis sur les réseaux. J'ai vu que vous étiez en plein travaux en ce moment. Je crois que vos studios vont se situer à Bolinx, à Forêt.
C'est ça.
Je ne sais plus exactement où, dans Forêt. mais du coup, dans un espèce de, comment ça s'appelle, de conteneur.
Alors, on n'en est pas encore là pour l'instant. C'était l'idée de départ.
Ah, ok, d'accord, c'est ça.
Mais en fait, voilà, c'est notre partenaire principal, donc Brasserie Illégale, qui était aussi où avant et qui ont déménagé maintenant dans des nouveaux lieux. Donc, c'est entre Forêt et Anderlecht dans la zone industrielle. Mm-hmm. C'est pas à côté, mais c'est chouette. C'est illégal.
Ah oui, c'est vrai, Noé a un pull illégal.
Noé est un homme pancarte.
Très bien.
Ça lui a jamais rapporté une bière gratuite, hein, d'ailleurs.
C'est un lien.
Et donc, illégal qui travaille aussi fort à côté de la brasserie à promouvoir les artistes émergents et émergentes. Mm-hmm. Donc voilà, c'est notre partenaire principal qui nous prête un local en fait pour les trois premiers mois dans leur bureau. Donc c'est encore en travaux, mais je pense que d'ici début de l'été, ça va se mettre en place, ça va être chouette. Et puis l'idée, c'est qu'à partir de donc début de l'été, on puisse avoir une petite cabane, pas forcément un conteneur parce que c'est un peu plus compliqué que prévu, mais une petite cabane dans la cour, une yourte, pourquoi pas.
Ouais.
Et voilà. Mais pour les trois premiers mois, on est à l'intérieur, du coup, dans un petit studio qu'on a aménagé. Donc voilà.
Et à côté de toi, il y a Thomas. Bonjour.
Salut.
Thomas, ça
salut,
va ?
Salut. J'arrive pas à faire la voix grave que vous avez fait au début. Là, vous vous affirmez
comme
tout
ça.
De suite.
La voix suave.
Ouais. Bonjour.
Bonjour. Bon, on est encore sur une vraie masculine.
Ouais, je vois, c'est ça. Vous affirmez votre virilité dès le début de l'émission. Comme ça, j'étais très impressionné.
Qu'est-ce que tu veux quand voilà. Des années de travail avec Patrick. Il est coach vocal, voilà, aussi, monsieur Patrick.
Coach en masculinité.
Coach en masculinité
toxique. Voilà, c'est ça.
Tu voudrais venir à la radio?
C'est-à-dire que Patrick cherche un point de chute, hein, donc maintenant qu'il n'est plus à Radio Maritime.
Voilà. Non, mais j'ai mes ambitions maintenant. Oui, Radio Maritime, c'était le tremplin, mais maintenant c'est parti.
La première vous a.
Non,
pas la première, s'il vous plaît. Alors Thomas, il est question de radio aussi avec toi.
Oui,
mais pas que.
Pas que, parce que avant tout, mon vrai métier, c'est d'être assistant en sociologie à l'ULB. Donc je donne des cours aux étudiants et étudiantes et je fais une thèse à côté, une thèse de doctorat en socio, du coup. Et je m'intéresse au sujet qui est injustement méconnu, celui des snacks et du room à Bruxelles.
C'est... Voilà. Bon appétit.
C'est-à-dire qu'il est très fréquenté, mais pas forcément...
Très fréquenté, mais finalement peu connu, en fait. Ouais, là, tout...
Avant que tu nous expliques le pourquoi de cette thèse et qu'est-ce qu'elle contient, comment c'est perçu en dîner de famille, en repas de famille? Je fais la sociologie.
Ouais.
Disons que
c'est un peu dans la continuité, quoi. je suis pas trop pris au sérieux sur ce que je fais dans un premier temps.
Et comment tu le présentes à tonton ou à tata
Bah en général, ma mère leur a dit avant, donc du coup. Ou le téléphone familial a fonctionné avant et ils savent déjà et donc ils viennent m'en parler au début et j'ai pas l'air très très sérieux quoi. Donc j'essaie de leur faire comprendre que c'est un sujet sérieux, mais c'est non seulement dans la famille, mais aussi même à l'université, j'ai quand même eu du mal à imposer ce sujet. J'ai eu des réactions relativement négatives, soit incrédules dans le meilleur des cas, un certain enthousiaste quand même, je dois dire. C'est un qui disait « Ah, c'est une excellente idée, enfin quelqu'un qui prend ce sujet à cœur ». D'autres qui m'ont dit « Genre vraiment ?» et d'autres qui m'ont dit « C'est un scandale d'utiliser l'argent public de cette manière ». Voilà, donc je suis en mission... pour imposer ça dans le champ académique, comme on dit.
Qu'est-ce qui ressort pour l'instant de tes premières observations
Bon, je suis encore relativement au début, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre contact, j'ai un peu de mal aussi à faire comprendre aux gens dans les snacks que c'est aussi un sujet d'intérêt. J'ai un peu... Personne n'y croit à ce truc. Mais, petit à petit, ça vient... Qu'est-ce que j'ai découvert bon, déjà qu'il y en a beaucoup. Oui. J'ai quoi, 450 snacks à Bruxelles. C'est, voilà, chiffre déjà d'il y a 2-3 ans, ça bouge beaucoup. Hein. Il y en a qui ouvrent et qui ferment tout le temps. Du coup, ça fait pas mal de gens qui bossent dedans. Mmh. Je dirais, je crois, au minimum, si on compte 3 snacks par personne, ça fait... j'ai noté avant de venir. 1300 plus ou moins au minimum. Et je dirais, si on compte 5 dans le genre, ça fait plus de 2000. Donc ça fait quand même pas mal de gens. J'ai aussi fait l'exercice d'aller regarder. Je crois que c'est plus que... Enfin, je me rappelle pas de tout le temps. Actiris, 1600 personnes qui travaillent pour Actiris. La ville de Bruxelles, 3800. Donc entre les deux, quoi. Ouais. Hein, quelque chose comme ça.
Mais ils sont pas forcément tous sous contrat, je pense, dans les snacks.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, il y a... Bah... Déjà, c'est l'ORECA. Les snacks en particulier, il y a clairement il y a du travail au black dans les snacks, ça c'est sûr. Mais aussi, il y en a beaucoup qui fonctionnent en famille. Et donc du coup, là, c'est une espèce de zone grise, quoi. Il y a peut-être que c'est au nom de monsieur, mais clairement, madame travaille aussi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais déjà remarqué avant de commencer, mais que j'ai vraiment vu. De manière un peu plus généralisée, en fait, dans les snacks où je suis allé. Le travail des femmes, il est invisibilisé dans les snacks. En fait, il n'est pas à l'avant à découper la viande et à servir les sandwichs, mais par contre, elles charbonnent derrière à faire la vaisselle et à découper les légumes, quoi. Et donc, souvent, ça va être la femme du monsieur qui possède le snack. Peut y avoir les enfants aussi qui participent, qui viennent, je sais pas moi, quand ils ont fini leur devoir, ils viennent aider une heure, ou ils viennent sur le coup de feu à midi, etc. Donc du coup, ça fait vraiment, c'est beaucoup de monde, quoi. Et je parle pas, il y a les filières de grossistes, etc., mais ça, je connais pas encore très très bien, quoi.
Et du coup, ouais, c'est ça, tu t'intéresses du coup à l'organisation de ces structures-là, quelles sont tes problématiques, ou du moins tes axes de recherche pour l'instant, est-ce que c'est la première année de ta thèse, ou est-ce que tu es encore en phase de... Tu es encore en train d'infuser, de te nourrir du terrain, ou tu as déjà des problématiques, des premières pistes?
Alors, malheureusement, c'est déjà ma troisième année de thèse, mais je suis toujours en train d'infuser. Mais parce que ouais, j'avais des idées au départ, mais voilà, au départ, je m'étais dit... Donc, je voulais un peu comprendre le secteur, déjà, premièrement. Donc, tout ce que j'ai dit, là, j'ai déjà fait un petit travail. Mais ma problématique, c'était de me dire, c'est un endroit où c'est plus qu'un endroit où on va chercher un sandwich, si tu veux. Il y a des choses qui se passent, il y a des interactions sociales, et c'est des espèces d'institutions, des petites institutions dans les quartiers, quoi. C'est un point de repère, on va là-bas, on rencontre des gens, les informations circulent, etc. Donc mon idée, c'était d'aller dans les snacks et de voir un peu ce qui s'y passait. Bon, du coup, ça a bien foiré, parce qu'avec le Covid, en fait, il n'y a plus personne dans les snacks. Donc du coup, au début, c'était fermé, c'était seulement emporté, donc j'ai pas pu vraiment... je pouvais pas rester. Une fois que c'était un peu plus possible de rester, j'y suis allé et je me suis rendu compte que dans les quartiers où j'allais, il y a beaucoup de personnes qui sont pas vaccinées et donc du coup qui ont pas le Covid safe ticket et qui ne restent pas. Du coup. Bon, certains, j'imagine, laissent quand même les clients rester sans demander le pass, mais bon, en tout cas, voilà, ça a limité un peu ça, donc je suis un peu en train d'évoluer en ce moment, de voir qu'est-ce que je peux faire, bon, ça reste quand même une interrogation, quoi. Qu'est-ce que c'est de au-delà en fait de d'un simple restaurant à Durum, quoi. Qu'est-ce qu'il y a en plus
ouais. Et en plus, t'enregistres là.
Oui, c'est ça. C'est que je m'étais dit aussi une manière de faire un peu plus ludique et aussi plus pratique pour moi, à savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile quand je vais dans les snacks de me présenter et de dire je fais de la recherche, est-ce que vous avez le temps de me parler ? Donc il y a deux choses. Déjà, bon, en fait, pas grand monde sait ce que c'est vraiment une thèse de doctorat, encore moins en sociologie, donc expliquer ça, c'est long. Les enjeux passent pas toujours. Puis voilà, puis c'est des gens qui travaillent, quoi. Ils ont autre chose à faire que de me donner, consacrer du temps. Donc l'idée, c'était de venir avec quelque chose un peu en échange, quoi, de venir en disant je viens faire un reportage radio et les gens y trouvent leur compte, quelles que soient les raisons, pour faire de la publicité aussi. Pour là, le premier que j'ai fait, c'était un snack qui finissait. En fait, ils ont revendu le snack pendant le moment où j'étais là. Et donc, c'était une manière aussi de faire le bilan, de raconter leur histoire, de faire passer un message aussi en disant bah voilà, on bosse, quoi. C'est dur, mais c'est un métier intéressant. Il y a des bons côtés, etc. Et donc, voilà, je vais dans les snacks. Je me présente comme reporter radio, quoi. Et ça me permet de faire des petites créations sonores. Voilà, ça a plein d'avantages aussi, après, même pour moi, pour présenter aux collègues, pouvoir en discuter aussi. Je me suis rendu compte que c'était super utile, que plutôt que de leur faire lire un truc de 50 pages. Mmh. Et voilà.
Bah on écoute.
Ouais, allons-y.
Quand t'es client et tu rentres dans un snack, tu imagines toujours derrière le comptoir comment ça se passe. T'as l'impression que c'est un monde parallèle, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est juste à 50 cm de toi, quoi.
De l'extérieur, pour moi, un snack, ça restait quelque chose de très classique, quoi. C'était mettre de la viande dans le pain et donner, et basta. Pour moi, c'était très simple. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler dedans, à aider mon mari, j'ai bien vu que c'est très compliqué. Et quand on n'est pas du milieu, on ne voit pas la chose comme ça.
Salade Box et l'oignon, l'épisode 1.
Donc je m'appelle Omer Khan Coxal, je suis né à Anderlecht ici, j'ai grandi à Gansoren, et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas et je vis toujours là-bas. Donc ma maman était technicienne de surface, donc elle faisait du nettoyage dans les sociétés, à l'époque c'était Godiva et tout par exemple, là elle est pensionnée du coup.
C'est mon papa qui est venu et puis nous on est venu, maman avec les enfants on est venu, mon papa nous a invités et... Ça fait 53 ans que j'habite à Bruxelles. On est arrivé à Schaerbeek dans une rue à parallèle de la chaussée d'Anvers, mais c'était une rue où ça n'existe plus parce que quand nous on est venu en Belgique, on ne s'occupe pas de construire VTC. Et il y avait l'église, il y avait la gare du Nord, c'était pas comme ça non plus, c'était ouvert, il y avait des grands parcs devant, il y avait une grande église devant. Et puis il y avait les Gilles de Binche qui venaient, ils jetaient des oranges avec leurs paniers. C'était chouette, mais j'ai passé une bonne enfance ici.
Et mon père, ben, il a eu des restos, il a eu du café, etc. Donc il s'est souvent lancé un peu dans ce monde-là, quoi. Donc, et maintenant, retraité aussi. À la cool.
Ben, je m'appelle Altinok Tugba. Et j'ai 32 ans, je suis née à Bruxelles et j'ai toujours été à Bruxelles, voilà. Je suis d'origine turque et je suis un enfant de parents indépendants, quoi. Mais au début, ils ont commencé avec le marché et je travaillais aussi après l'école dans les magasins de mes parents. C'était alimentation et après c'était un night shop et il avait aussi un café, mon papa. Ben, moi, je suis coiffeuse, j'ai une carrière de 13 ans. Et j'étais vraiment bien située, bien placée. Et puis un jour, mon mari, il a eu besoin du personnel. Donc du coup, je suis rentrée pour aider mon mari 2 semaines. Et maintenant, ça fait 3 ans et demi que je travaille avec lui, quoi, voilà. Toute ma vie, j'ai connu le commerce, quoi, voilà. J'ai grandi dedans.
Thank you.
moi, quand on me dit un snack, ça doit être, voilà, tout ce qui est fricadelle, hamburger, 2-3 viandes, et ça s'arrête là, tu vois. Ça doit être des surgelés, des frites fraîches, le pain, ta sauce, etc. Ce qu'il y a avec les années, c'est que ça a vachement évolué, tu vois. Je vends déjà sandwich durum pain turc, et la base. Bah ensuite, ça va être le capsalon, ça va être le tacos, ça va être les pâtes, ça va être le lahmacun, en l'occurrence, c'est une pizza turque, si je puis dire. Je fais des boulets de sauce tomate, je fais de la carbonade. Donc ouais, on est assez, tu vois, on est bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, en Turquie, quand tu vas dans un centre commercial, là-bas, t'as souvent l'étage du dessus, c'est l'étage des fast-food. Donc t'as plein de fast-food différents, et au milieu, les tables, les chaises. Donc tu peux aller avec un groupe de potes, prendre ce que tu veux et manger à la même table. Donc c'est vraiment vachement cool. Et c'est un truc que je rêvais d'avoir, à mon échelle, si je puis dire. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre plus de choses, tu vois. Mais c'est à chaque fois en petite quantité. Donc par exemple la soupe, voilà, je vais pas mettre 10 sortes, ça va être 2 sortes, ça va être ma mère qui les prépare. On va être sûr du goût, de la qualité, tu vois.
Je donne un coup de main à mon fils, je fais les soupes, toutes les préparations au chaud, les cafetés, les sauces boulettes, champignons, bolognaise. Mon fils, il ne voulait pas prendre de cafetés préparés, tout ça. Il dit, je vais mettre ce que tu prépares, maman, comme ça pour les clients. Et tout ce qui est chaud, c'est moi qui prépare.
C'est un peu plus que donner un coup de main. Vous travaillez beaucoup, là.
Oui, je le savais, ça. Mon mari, dès le départ, c'est quelqu'un qui fait hyper attention à l'hygiène, qui fait hyper attention à ce qu'il donne comme nourriture. Déjà, dans le comptoir, il ne va jamais mettre quelque chose que lui-même, il ne va jamais manger. Il ne va jamais risquer ça.
Donc voilà, on essaie de tout le temps s'appliquer à fond, tu vois. Je veux dire, même la viande, le poulet, le bœuf, etc., on va le mariner, on va le couper nous-mêmes. La salade, on va le couper nous-mêmes. Quand le client vient et se plaint d'un truc style, je sais pas moi, c'est trop froid ou c'est trop salé, ou tu sais, ça me touche. Tu vois ce que je veux dire? Je vends pas ce que je mange pas. Tu vois, tout simplement, quoi.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique.
Il y a une question auquel ça ne répond pas, Thomas, ce petit reportage qui était très chouette d'ailleurs. J'ai trouvé ça. Salade, tout? Comment tu le manges, ça, ton.
Ouais, tout.
Tout?
Ouais.
Même maïs?
Ouais, ouais. Peut-être parfois pas les tomates quand même.
Ouais,
c'est
acide.
Ça mouille le pain.
Ouais, c'est vrai, ouais. Que c'est pas terrible. Chloé?
Bah, moi je suis végé donc. Donc c'est falafel.
Voilà,
c'est
falafel,
ouais. C'est très bon d'ailleurs.
Mais du coup, salade tout, c'est la question.
Ah bah oui.
Si la sociologie dit, dis-moi ce que tu mets dans ton panier au supermarché, je te dirai qui tu es. Moi, dis-moi.
Mais pas le maïs en revanche.
Voilà, merci.
Pourquoi pas le maïs?
Je trouve que ça n'a rien à faire ici, quoi. Ça n'a rien à faire.
Je suis assez d'accord.
Dôme,
Ok. Très bien.
mélange tout.
D'accord. Je prends des notes. Hein. Marie, je prends des notes.
Alors moi, quand je vais au snack, je prends surtout un paquet de frites, petit, mais je prends 5 sauces.
C'est vrai.
En fait, je prends des sauces à la frite.
Et quel est le cocktail? Enfin, les 5 sauces? Quelles sont ces 5 sauces?
Alors moi, j'aime celles qui piquent, hein, donc samouraï, andalouse. Parfois, il y a pili pili. Hein. Et puis alors, je suis ex-belge un peu quand même, avec des origines italiennes, donc je prends la mayonnaise et le ketchup.
Cathy?
Eh bien moi, je te rejoins sur la sauce, parce que je trouve que la sauce, elle fait beaucoup quand même dans le room. Mais moi, c'est la sauce Brésil.
Mais c'est vrai, j'ai parlé à beaucoup de gens de ça, et la sauce, c'est quand même l'aimant qui revient pour tout le monde. Et il y a des discussions interminables, j'ai des enregistrements d'une heure et demie de gens qui parlent quasi que de sauce. Et c'est aussi ce qu'on me cite pour faire la différence entre les kebabs en Allemagne, en France, en Belgique, et tout de suite on parle de sauce. Ça a l'air d'être le truc qui fait la différence en Belgique, quoi. Et puis ouais, je voulais juste dire, je repensais, j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais en fait ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est voir comment les snackers, comme lui il s'appelle, comment ils investissent leur travail, en fait. C'est quoi pour eux un bon snack? C'est quoi la qualité? C'est quoi un bon accueil? Un bon accueil, une bonne... Ouais, qu'est-ce que c'est qu'un bon snack, tant l'objet que tu manges que l'objet dans lequel tu accueilles les gens, quoi. Ouais. Ça, et je m'intéresserai aussi un peu plus tard aux clients, en fait, qui poseraient la même question. C'est quoi pour eux, c'est quoi, comment on choisit, en fait, son snack, comment on dit oh, je vais à celui-là plutôt qu'à celui-là, et puis quand on est en groupe avec ses amis, comment on fait pour choisir un snack, c'est quoi, c'est comment on hiérarchise les raisons d'aller au snack, est-ce qu'on est bien accueilli, est-ce que c'est bon, est-ce que les frites sont bonnes, non, il y a des meilleures sauces, et non, la viande est meilleure, etc. Et c'est ça qui est peut-être un peu plus sociologique, ouais. Et qui m'intéresse, quoi. Et donc, du coup, si y a des auditeurs, auditrices qui ont envie, très, très envie de parler de snacks, ou qui connaissent...
Figure-toi que j'ai un ami graphiste qui s'est beaucoup... Enfin, qui a fait une partie de son mémoire sur, justement, toutes les typographies des différents snacks pour savoir lesquels pouvaient potentiellement donner envie, quelles étaient, quelle était l'esthétique, en fait, du...
Ok, ça, je prends, ça.
Ouais.
Ça, il faut que...
C'est assez intéressant, quoi. Parce que, du coup, c'était un peu un délire graphique de dire vraiment, ah, c'est vraiment une typo trop moche, je prends, c'est hyper intéressant. Enfin, et justement, qui était à l'initiative de ces constructions de...
Ah ouais, non, mais ça, c'est super. Il faut vraiment... Parce que c'est une dimension qui est hyper intéressante. Toute la... tout le décor aussi, la vitrine, c'est toujours une interaction avec le passant, ça doit donner envie, ça doit envoyer un message, et c'est peut-être une dimension que j'ai dû mettre un peu de côté parce que je peux pas tout faire, mais s'il y a déjà quelqu'un qui a rassemblé un corpus d'images, c'est super intéressant.
Là, tu vas travailler sur ce quartier-ci maintenant, parce que là, on était à Laeken pour ce premier travail dont on a entendu un extrait. Maintenant, tu es sur le quartier maritime. Hein,
j'essaye, ouais. Ouais. Je continue quand même, je pense, encore un peu à Boxall, mais je vais un peu attaquer quartier maritime aussi, voir s'il y a un snack où je pourrais aller un peu.
Parce qu'ici, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup avec l'arrivée de Touré Taxi et l'espèce de truc de bouffe de luxe qui nous ont ouvert là. À mon avis, ça va. Ouais, bah vas-y, alors allez-y, monsieur Patrick. Je diviserai mon salaire en deux, alors. Hein, parce que...
La question est donc la suivante, c'est, il y a quelques années, il y avait le hamburger, et le hamburger, c'était un peu le ton en dessous de la nourriture qu'on pouvait proposer aux gens. Donc c'était pas très bien vu. Aujourd'hui, le hamburger, il est devenu un peu classe, parce que si on va effectivement à Touré Taxi, où maintenant il y a... Et avant Touré Taxi, il y en avait ailleurs, mais il peut y avoir des restaurants que basés sur le hamburger, avec hamburger foie gras, hamburger ceci, hamburger cela. Et donc, ça a repris ses lettres de noblesse, si on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est monté dans la hiérarchie. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, le durum soit un durum de première classe?
C'est une question qui est posée depuis longtemps. Je pense qu'en Belgique, ça c'est très peu développé. En Allemagne, il y a des choses un peu plus qualitatives. À Paris, ça a commencé à arriver dans les dernières années. Il y a quelques snacks un peu plus chers, avec des bons produits, entre guillemets. Il y a même le chef étoilé, Thierry Marx, qui a fait une revisite du kebab aussi. Mais ça date déjà, en fait. Hein, donc c'est déjà, je crois que ce qu'il avait là, c'était il y a vraiment 7-8 ans, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est des choses anciennes, mais je n'ai pas l'impression que ça décolle énormément. Il y a quelques trucs... Mais alors par exemple, en Belgique, on passe des noms, mais à XL, il y en a un qui fait des choses un peu plus qualitatives, etc. Mais en fait, je pense que le snack ça va rester quelque chose de pas cher, parce que c'est pour ça que les gens y vont. Les gens y vont au snack parce que pour 5 euros, tu manges et t'es calé pour la journée. Et c'est pour ça qu'on trouve des ouvriers du bâtiment, les femmes de ménage, les femmes qui font leurs courses, donc qui sont dans leur milieu de journée de travail domestique, vont faire leurs courses, servir à la maison, ben, elles prennent leur pause déjeuner au snack. Les étudiants, les lycéens, ils n'ont pas de sous, ils vont là. J'ai aussi parlé avec quelqu'un une association de sans-abri qui m'a dit aussi que pour les sans-abri, c'est une ressource intéressante parce que c'est ouvert tard, ça coûte pas cher. Là, pour le coup, peut-être un truc encore moins cher. Donc, je pense que dans ce qui est constitutif du snack et de l'expérience snack, il y a le prix aussi, quoi. Mmh. Et donc, oui, peut-être qu'il y aura des expériences. Il y aura peut-être dans quelques années un ou deux snacks chics, des snacks gentrifiés, mais... Mais je crois pas que les snacks qu'on connaît vont disparaître à ce point-là.
Mais je repensais, enfin, l'histoire du snack, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, par exemple, il y avait beaucoup, beaucoup de frites côtes hein, qui vraiment ont disparu. Et il en reste quelques-uns. Hein. Mais quand est-ce que ça a vraiment boomé le snack?
Alors, ça a commencé dans les années 80. Donc, les premiers, c'est toujours difficile. Alors, dans la presse régionale bruxelloise, ils en citent toujours un ou deux, mais j'en ai trouvé des plus anciens. Et on va dire que c'est voilà, le début des années 80, il commence à y en avoir quelques-uns du côté Chaussée de Hacht, rue Rogier, enfin à Skarbek, quelques-uns dans les Marolles aussi, enfin ça, voilà. Mais c'est lié à la présence turque souvent, grecque aussi, il y avait déjà des restaurants grecs avec des pitas déjà dans les années 50 à côté de la Grand Place, mais ça se développe vraiment donc, au cours des années 80 et ça explose quand même tout au long des années 90, et vraiment, à partir de fin des années 90, début 2000, là, c'est vraiment en grande échelle, quoi. Donc, en fait, ça se fait petit à petit, avec l'immigration des années 60, 70. Au début, c'est des hommes seuls, mais petit à petit, avec le regroupement familial, etc., commence à y avoir un marché plus grand. Et après, ça c'est sorti de juste la niche... immigration, quoi, et ça s'est étendu à tout le monde.
Oui, parce que j'associe aussi sur le fait que on parle aussi de malbouffe et de aujourd'hui de plus en plus de nourriture de qualité, hygiène de vie, etc. La cuisine végane, bio, végétarienne. Et donc je me dis effectivement, les snacks peuvent aussi commencer à se démarquer de ce registre, tout en étant accessible aux plus humbles, quoi, aux plus démunis.
Oui, alors ça, c'est toujours un peu dégueu. Alors, comme je disais, en Allemagne, il y a les kebabs végétariens et vegan, etc. Ça existe. Après, par rapport à ce que je disais sur la destination des snacks qui existent maintenant, c'est plus donc pour les classes populaires, mais en sociologie de l'alimentation, c'est des résultats qui sont connus depuis longtemps. J'essaie de dire ça
sans dire de bêtises. Le végétarisme, c'était un truc socialement très situé, quoi.
Ouais, c'est ça. On va trouver plus de végétariens dans classe moyenne supérieure que dans les classes populaires. Donc du coup, pour tout un tas de raisons, en fait, j'allais rentrer dans les explications, mais c'est pas le moment. Mais pour le dire rapidement, c'est ça. Et donc, il n'y aurait pas de marché pour ça, à part ce que je disais, peut-être quelques snacks qui seraient dirigés direction classe moyenne et qui serait végétarien. Mais si on tente le kebab végé pour les classes populaires, ça risque de très limité. Ça peut marcher un peu. Et il y en a certains qui dans les classes populaires qui vont qui sont végétariens pour les mêmes raisons que les classes moyennes sup, mais beaucoup moins, quoi.
Donc ce qu'on mange, en fait, révèle aussi notre origine sociale.
Bah, bien sûr.
Ouais, c'est ça. C'est bon, les 20 ans de la mort de Pierre.
Petite question avant de faire une petite pause musicale.
Parce qu'en plus, Thomas, il doit y aller, lui.
Ah oui. J'ai
des rendez-vous
déjà en retard, en fait. C'est pas grave.
La question, c'est, tu parlais justement de la provenance tout à l'heure, de l'historique un peu du snack. J'ai entendu durum, manière de les qualifier, j'ai entendu durum, j'ai entendu grec, j'ai entendu kebab, j'ai entendu galette, j'ai entendu... Finalement, c'est quoi qu'est-ce que vous dites, vous, et quel est le bon mot, parce que, enfin...
Pas de bon mot...
Une crasse.
J'avais mangé une crasse. Non, je sais pas, d'expérience, j'ai l'impression qu'à Bruxelles, on dit un snack, non? Enfin...
Ouais, mais donc, pour nous, c'est une crasse, mais pour d'autres, c'est l'Europe.
Mais oui.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
J'attends que la radio se fasse à mon mode de vie. Non, mais c'est pas l'inverse.
En France, on dit kebab ou grec.
Ça dépend où, tu vois, parce que dans la région d'où je viens en France, très rapidement, mais à côté de Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne,
c'est tacos. C'est tacos, mais pas tacos mexicain. C'est tacos dans une. Et ça, on va manger tacos.
Ouais, mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même
chose. C'est encore différent. Ça arrive maintenant.
Oui, voilà, avec les trucs, mais c'est la même sociologie. C'est la sociologie du. On va manger un tacos, on va pas manger un kebab, on va manger un tacos.
Ouais. Je sais pas, pour le nom, en fait, il n'y a pas vraiment de... Je sais pas, il y a... Oui, en France, on va plus dire on va manger un kebab ou un grec. Ici, on dirait jamais ça. En Allemagne, on va au döner. Et encore, en France, si tu vas à Strasbourg ou à Metz, ou enfin en Meuse, en Alsace-Lorraine, tu pourrais dire un döner, mais tu dirais aussi un grec. Enfin, Je crois que c'est... Là, je t'avoue que j'ai pas vraiment fait trop une analyse de ça, mais...
Non, c'est pour ça qu'il y a un rendez-vous. Il va se faire évaluer. Là.
J'ai plein de gens là, à aller voir encore. Non, mais ça, oui, c'est une question que j'ai pas trop investiguée. Mais je dirais, ici, je dis un snack. Quoi. J'ai fait le choix, je dis ça, parce que c'est ce que j'ai entendu le plus, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus courant. Quoi.
Okay. Bon appétit, Thomas.
Merci. Ouais, ça aussi, c'est un autre problème. Hein.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique 105.4.
Et pendant que Thomas s'en va, eh bien nous reprenons le cours de l'émission. On va encore dire un mot sur la web radio avant de donner la parole à nos nouvelles chroniqueuses. Radio Vacarme. Radio Vacarne. Vacarme.
Vacarme.
Vacarme. Bon, ça se lance mardi.
Ouais.
18h30, on écoute ça donc sur radiovacarme.be. Ou comment, c'est quoi le site?
C'est radiovacarme.com, mais n'y allez pas tout de suite parce qu'il n'est pas encore finalisé.
Le site n'est pas encore finalisé, ça tu me disais ça hors antenne.
Ouais, et on commence, donc c'est un set live, un DJ set live, donc en direct du studio à Illégal. Mm-hmm. Donc voilà.
Et ça n'existait pas, une web radio branchée
non,
féminisme et
j'avais souvent entendu des podcasts.
Voilà.
Et moi, on avait envie de sortir un peu de ce côté podcast qui est super intéressant, mais de réinvestir un peu le live de la radio aussi. Parce que c'est un média qui est super intéressant. Et donc là, pour l'instant, dans la programmation, on est à peu près à 50% de rediffusion, donc d'émissions qui sont pré-enregistrées, qu'on va juste diffuser. Et de live, donc on voulait garder un peu ce côté un peu excitant quand tu passes à l'antenne et tout ça qui est assez intéressant. Donc,
Bah oui, bien sûr, c'est ce qui fait un peu le...
Ouais.
Il y a l'adrénaline quoi.
Et t'as l'adrénaline et en plus on te voit pas, donc il y a aussi ce côté de, pour permettre la parole, libérer la parole, avoir un espace en tout cas, sans qu'on te voit, je trouve que ça enlève un stress, ça enlève quelque chose et tu peux parler plus librement en tout cas je trouve. Mais ouais.
Bien. C'est super, il y a d'autres choses à dire sur Radio Vacarme quand je sais pas, c'est le moment de vendre ton truc hein, parce que on est très très écoutés à Radio Maritime donc.
Non mais par contre je peux dire qu'on a lancé une cagnotte en ligne parce que
quelque part ça galère un peu.
Voilà, ça galère. Ben oui, c'est un projet bénévole donc
Généralement c'est les grands-parents qui payent au début.
Ouais, voilà, c'est ma famille. Non, mais j'en profite déjà pour dire merci à nos donateurs, donatrices, parce qu'on a eu un gros coup de pouce pour acheter notre matériel. Mais il reste encore du chemin à faire, donc voilà, allez en ligne sur notre compte Instagram. Et je peux balancer le compte Instagram.
Mais oui,
c'est
oui.
Radio underscore 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 vacarme, donc tiré du bas deux fois. Et le lien de la cagnotte est dans la description, et voilà.
Ouais, ok.
Est-ce que monsieur Patrick peut arrêter de ranger compulsivement tous les objets? C'est très perturbant.
Alors j'ai vu passer Mario, il vient pas dire bonjour Mario.
Ouais, alors, je lui ai demandé...
Mario il n'est pas encore tout à fait arrivé en Belgique.
Ok. Voilà. Donc, parce qu'on aurait bien prochaine. Aimé avoir. Mais la semaine prochaine, je crois qu'on sera en rediffusion, monsieur Patrick.
Ce sera pour la semaine d'après. Il ne faut pas d'après. Bousculer Mario.
Non, c'est vrai. C'est
Mario
vrai.
Est fragile. Il faut
quelqu'un de fragile.
Tenir compte de sa fragilité.
Lancement de l'émission, mardi 18h30, on est d'accord?
Ouais, 18h, pardon.
18h avec un set.
Ouais. Un set de qui? Un set live.
Tu l'as déjà dit?
Ouais, elle a dit.
Ok, pardon,
un set live.
Tiens, moi j'avais une petite question. Comment est-ce que vous vous êtes décidé à choisir le titre de votre séquence Vacarme?
Oui, c'est intéressant ça.
C'est une très bonne question, mais
voilà.
Parce que c'était toujours dans l'idée de se faire entendre, en fait, de laisser la place à des personnes qui sont trop souvent invisibilisées dans l'espace public et médiatique. Donc, de faire du bordel, en fait, et donc,
du bruit.
Du bordel, du bruit. Donc, voilà, on a cherché un synonyme. Et vacarme, ça sonne bien. Mmh. Voilà, tout simplement.
Du coup, j'ai appris que moi, j'ai toujours dit vacarme. Je croyais que c'était vacarme, en fait.
Mais oui, mais beaucoup de gens disent ça, mais ça ne veut rien dire, vacarme.
Ben, pourtant, on est plein d'avoir été dans l'erreur pendant des années. Donc, c'est peut-être à toi de te remettre en question aussi.
Tu sais que je me remets très peu en question, moi, Thibaut.
Non, mais c'est Chloé qui doit se remettre en question. Non,
donc, vacarme, ça crée avec un M.
Hein, ici,
ouais, bien
hein.
sûr. Le vacarme.
Ça, il n'y a pas de doute. Hein.
Mais il y a des mots comme ça. On croit tout savoir et on se lève un matin avec des interrogations qui nous hantent. Mais vraiment, qui.
Incroyable. Mais c'est pour ça qu'on fait Radio Maritime. On se met quelque part, on met nos assurances en danger. On met nos idées reçues en danger tout le temps. Tout le temps.
C'est beau, oui. hein.
Pas tout
c'est
le monde, bon. Hein. Pas tout.
Pas tout le monde.
Pas tout le monde.
Très bien. Eh bien, Chloé, nous, on va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez l'intention de sortir hors les murs avec vos studios ou pas?
Oui, mais pas tout de suite.
Pas tout de suite.
On a trop de taf. Mais plus tard, ouais.
Bah nous, vu qu'on n'a pas de taf, on viendra peut-être vous voir.
Eh bah, génial. Oui. Vous serez les bienvenus.
Incroyable.
Bon, alors, c'est le moment. C'est l'instant.
Le passage de flambeau, finalement.
C'est le climax de cette émission. Marie-Lou...
Les jingles.
Alors, monsieur Patrick avait son propre jingle. Donc, s'il y a une chronique récurrente sur la santé mentale qui s'installe à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous devrez aussi trouver un jingle.
Oui, on va y réfléchir.
Ça va ?
Tout à fait.
Alors, pour l'instant, de ce que je sais, c'est que vous avez un petit appui musical pour cette chronique-ci, en tout cas. Qu'est-ce que je fais ? Je lance le premier extrait ?
Bah oui, l'idée, c'était d'introduire et de conclure.
En musique.
En musique.
Alors, on va lancer le morceau pour introduire votre chronique. Et puis, vous me faites signe quand vous voulez que j'ouvre vos micros, que je baisse la musique. C'est vous êtes... On est en train... Là, on est sans filet. On est transparent avec nos auditeurs. On n'a rien préparé.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les saints changent, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Aïe, 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 si je vous...
Je suis trop compliquée. Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que je tombe le masque. Nous avons choisi un petit extrait du titre « La même » de Gims et Vianney pour introduire notre séquence sentimentale. C'est une première. Nous sommes tous et toutes pris par le langage. Et la poésie dit des choses qu'on n'ose pas forcément dire tout haut. Ce qui se passe dans ma tête est intime, mais il est possible de dire, de se raconter à soi-même et aux autres ce qui m'arrive ou ce qui me trouble. Et je peux être à l'étroit dans ma tête et dans mes mots. Et je peux demander de l'aide ou pas. Nos services de santé mentale sont là pour ouvrir leurs portes aux enfants, adolescents, jeunes adultes et personnes âgées. Nous n'allons pas directement vous parler de ce qui se passe dans l'intime des consultations de notre service, de nos services de santé mentale. Nous avons plutôt choisi de prendre le chemin qui nous mène vers l'extérieur, le monde, l'art et la culture. C'est le biais choisi pour parler de notre travail, de notre présence dans la cité. Voilà, nous y occupons des fonctions différentes et je cède la parole à Cathy.
Et donc moi, j'ai été engagée justement dans le cadre du plan de relance. Ce sont des contrats qui ont été mis en place grâce au gouvernement pour la santé mentale depuis le début de la crise du Covid. Et donc effectivement, nos liens ont été chamboulés depuis mars 2020. Et donc nous, notre objectif, c'était justement de venir rompre la solitude et de proposer aux personnes des moments d'échange, d'espace de parole, ayant comme visée justement un retissage des liens. Dans nos projets, nous avons fait plusieurs, on a fait plusieurs actions. Et l'idée, c'était aussi de sortir de nos murs justement et d'aller vers l'extérieur, vers le réseau en fait de la commune de Laeken, parce que nous travaillons sur Laeken, et aller rencontrer ce qui se passe un peu dans la commune. Et donc nous avons rencontré le centre culturel, la maison de la création, où nous avons collaboré en fait et nous avons emmené des familles du centre vers des ateliers cinématographiques du centre culturel et où ça a été vraiment une très grande surprise pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au cinéma et d'emmener leurs enfants au cinéma. Et donc là, il y a vraiment tout un espace d'échange et voilà, de ce côté... culturel, on emmène ces familles qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller. Nous avons aussi invité des personnes à participer à un atelier créatif qui aborde les questions de santé mentale. Bref, parfois, c'est difficile de sortir de chez soi, d'aller parler à un psychologue ou un thérapeute. Et donc, nous, on fait ça différemment. On va inviter les personnes à utiliser l'image, le dessin, pour exprimer justement un petit peu ce qui se passe dans nos têtes là, depuis 2 ans. Parce que les mots, parfois, sont trop difficiles. Et donc, voilà, nous allons vers la création, vers le créatif, vers l'art. Et d'où notre présence aussi aujourd'hui, d'aller vers la radio, l'expression. Et donc, voilà. Nous avons aussi, dans nos actions, nous soutenons aussi les travailleurs de première ligne. Donc, par exemple, les assistantes sociales du CPS de Laeken, de Mille-Bruxelles, ont parfois aussi sont submergés par ce qui se passe au niveau de la santé mentale de leurs bénéficiaires. Et donc, nous les accompagnons effectivement aussi pour ces questions-là. Donc voilà, nous sommes un peu multitâches et nous adorons ça.
Tout ça en plus des activités, je dirais, un peu plus... pas normales d'un SSM, mais enfin, des activités récurrentes, régulières d'un SSM, c'est-à-dire des consultations. Et...
Oui, en effet. Donc effectivement, nos services, nos services donc accueillent le tout venant. Hein. Mmh. Tout le monde est bien reçu, en tout cas peut contacter nos services via une ligne téléphonique. Et puis, un premier accueil peut se réaliser dans nos bureaux. Et donc, nous sommes des équipes pluridisciplinaires avec différentes fonctions psychiatriques, psychologique, assistante sociale, logopède, etc. Et thérapeute de développement pour les jeunes enfants aussi. Et nous accueillons vraiment toutes sortes de demandes, des plus légères aux plus graves. Nous tentons d'être disponibles et nous recevons donc dans l'intime des cabinets, enfin des bureaux de la maison du Champ de la Couronne. Mais dans les autres communes avoisinantes, effectivement, nous avons donc un décret qui nous amène à avoir trois missions de base qui sont donc l'accueil, le diagnostic. Ouais. Enfin, nous n'aimons pas trop ces mots-là, mais voilà, nous devons nous en servir. Et le traitement. Mmh. Et puis, il y a tout le volet préventif. Et il y a tout le travail également avec le réseau psychosocial.
Et Cathy, tu l'as dit, donc toutes ces activités que tu as décrites prennent place dans le plan de relance qui n'est pas sûr de perdurer.
Tout à fait, c'est ça. Donc nous avons reçu, dans tout Bruxelles et en Wallonie, il y a eu des contrats en fait, qu'on appelle post-Covid, mais nous y sommes toujours en plein Covid. Ouais. Et du coup, effectivement, nous faisons en sorte de clamer, en tout cas, tout ce qu'on est en train de faire pour que ça puisse perdurer dans le temps, bien sûr.
Oui, pour compléter ce que dit Cathy, donc dans le plan de relance, c'est un petit peu par zone territoriale. Et donc, nous avons été invités à travailler avec nos collègues d'autres services de santé mentale. Et c'est dans ce contexte-là que donc se retrouve dans notre projet de plan de relance, à côté du service du Champ de la Couronne, eh bien, le Norrois, Primavera, le Coin des Cerises, et également le service d'ici et d'ailleurs. Et donc, ensemble, nous avons une certaine alchimie pour, comment dire, alimenter et nourrir nos réflexions, mais également partager ensemble ce qui nous anime à mener à bien ce plan de relance. Ça nous fait beaucoup de bien, à nous, au niveau de l'effet d'une rencontre. C'est vraiment très, très vivant. Et cela aussi amène, dans chacun des services, à se redynamiser, hein, à se déloger un peu des habitudes prises et aussi de ce qui nous a secoué depuis 2 ans, parce que nous avons, comme nous tous, été bousculés, chamboulés. On ne travaille plus tout à fait pareil. Donc, ça a des effets. Et voilà, je trouvais important de le dire, parce que nous allons peut-être aussi avoir des tournantes, hein, pour la séquence que nous animons aujourd'hui, Cathy et moi, avec votre aide et votre présence. Mais donc, d'autres participants du plan de relance seront là.
Oui, le Club Nord-Ouest, le Norrois, voilà, toutes des personnes qu'on a déjà entendues dans cette fameuse émission que vous pouvez écouter sur Radio Panique. Si vous cherchez Radio Maritime, Santé Mentale, vous allez la retrouver. Et donc oui, vous serez effectivement. C'est une chronique tournante. Voilà. Monsieur Patrick, la relève est prise ou pas ? La relève
tout
est là.
Tout à fait. Il fallait évacuer les vieux cadres. Ça, c'est, il faut changer tout ça.
Et sur bien. Parce que bon, voilà, tout le monde le sait, vous êtes psychologue, hein, sur cette question de sortir, d'aller à la rencontre, de sortir hors les murs. Est-ce que c'est...
Vous m'avez stigmatisé.
Ça vous parle ?
Oui.
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 Mais quelque part, c'est un peu ce que vous faites avec l'école de devoir. Faut pas. Vous êtes aussi en train d'observer un peu éventuellement ce qui se passe, non ?
Moi, la première fois que j'ai vu Monsieur Patrick, il était au Carrefour de Ribeaucourt dans un grand divan marron Chesterfield, et il consultait comme ça. C'était de la consultation sauvage, hors les murs justement. Ah. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Oui, c'était d'ailleurs votre première séance à ce moment-là, qui m'a fait découvrir d'énormes failles dans votre personnalité. Donc il y a la psychothérapie ou la prise en charge classique, on va dire. Et puis il y a ce que moi j'ai toujours appelé, que ce soit pour les AS ou les psys en stage, le travail de brousse. C'est-à-dire avoir ces cadres en tête et les appliquer dans le milieu où on travaille, sans se dire pour autant qu'il faut un dispositif particulier, c'est-à-dire un cabinet privé, un fauteuil, 45 minutes. On peut très bien entendre les choses que les gens disent quand ils le disent entre deux portes. Et on peut avoir un impact sur ces personnes-là, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, entre deux portes également. Et donc l'école des devoirs, c'est ça, que ce soit pour les primaires ou les secondaires. Le lieu d'accueil 0-4 ans, c'est ça également. C'est autour d'un café, autour du devoir, autour de la leçon, autour du bulletin, entendre et dire des choses aux gens. Et en fonction de ce qu'ils disent, orienter, appuyer sur tel bouton, mettre un coup de pied au derrière, et orienter vers une logopède, dire « papa, il a raison », dire à papa que peut-être il exagère un peu. Et donc, il ne faut pas... l'image que l'on se fait du psy, et qui est souvent associée à l'image qu'on a de Freud et de son divan et de son dispositif bien particulier, ça n'est plus vraiment d'actualité. Ça n'est plus vraiment d'actualité. Oui. On peut utiliser ça, ça sert encore, mais ce n'est plus la condition sine qua non. Oui. Voilà. Et donc, aller à l'aventure et rencontrer les gens dans les quartiers, c'est très bien. C'est très bien.
Bon. Cathy, Marie-Lou, comment ça s'est passé, première chronique ?
Eh bien, très bien. Voilà, tout petit à petit.
Ah, moi, je trouve ça très intéressant et très vivant et... Ça me plaît beaucoup.
Vous avez toutes les deux une belle voix de radio.
Ah, merci. Voilà. Ça
va. Attention, il y a Radio Vacarme qui est là. Vous avez peut-être été recruté.
Faites du bruit.
Allez, on se branche sur Radio Vacarme mardi à partir de 18h. On retrouvera une chronique santé mentale dans une des prochaines émissions Radio Maritime. Parce que c'est déjà fini, on va terminer avec le choix musical de Cathy et Marie-Lou, hein, le deuxième choix musical pour conclure cette émission. Merci. Et alors, pour info, si vous cherchez lac oignon, ah, je sais plus comment c'est le titre.
Exact.
Salade lac oignon, je crois.
Boxtal.
Salade Boxtal oignon sur SoundCloud. Vous pouvez écouter tout le reportage de Thomas. Voilà. C'était une belle émission. Merci à tous d'être venus. À très vite.
C'est dans le film.
À bientôt.
Ciao.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix.
Pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?